Bienvenue dans Un jour, une autre histoire. Avez-vous déjà entendu parler des EMI, ce que l'on appelle les expériences de mort imminente? Croire ou ne pas croire sont des choix, un peu comme voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Pierre Barnérias, grand reporter, très terre à terre, s'est penché sur la question du lien entre ciel et terre. Il nous en parle, fort de multiples rencontres et témoignages, au sujet de ces avant-après mystérieux. Bonjour Pierre!
Bonjour Nancy, comment ça va?
Mais ça va super bien Pierre, merci en tout cas d'avoir répondu positivement à mon invitation, d'autant plus que là tu as beaucoup de travail, je le sais, puisque tu viens de récolter 182 970 euros avec pas moins de 5232 contributeurs sur Ulule pour un film qui va beaucoup faire parler de lui, qui s'appelle Hold Up. On en parlera dans quelques minutes, parce que là, on ne peut pas ne pas en parler. Surtout qu'on parle du Covid-19 quand même dans ce film qui change notre histoire à tous, partout dans le monde. Donc, on est à fond dans le thème de ce podcast. Mais on va aussi surtout parler des EMI dans quelques minutes. D'abord, ce que je voudrais savoir, Pierre, c'est d'où tu viens? Qui étais-tu enfant? Et est-ce que être journaliste, reporter, pour toi, est-ce que c'était une vocation ou pas?
Non, en fait, je suis rentré dans le journalisme par accident. Ma vie a changé à la suite d'un grave accident de moto qui m'a mis 15 jours dans le coma, dont je suis sorti complètement indemne. Il se trouve que le hasard a fait que je me suis retrouvé dans une école de journalisme. Et c'est vrai que c'est un métier auquel je n'avais pas pensé et j'aurais été incapable d'en faire un autre. Donc j'ai vraiment fait ce métier avec une grande passion, et toujours d'ailleurs, même si depuis 10 ans je ne travaille plus pour les médias, je travaille uniquement pour le cinéma. Donc je ne suis plus journaliste au sens où on l'entend, même si j'ai ça dans la peau et je fais tout ce que je fais en fait, c'est faire des films, des enquêtes sur des sujets, du moins qui sont des sujets qui nous concernent tous, comme la vie, la mort. En fait, ça fait quasiment 35 ans que je me bats pour une information positive. Voilà, une information positive, pas dans le sens béné du terme, mais positive dans le sens où on essaye de donner des solutions aux grands enjeux de nos sociétés.
Quand tu étais enfant, alors rien à voir, tu n'avais pas du tout envie d'être journaliste, de travailler à la télévision, tout ça. C'était qui, Pierre, enfant?
Mais j'ai jamais eu envie de travailler à la télévision. Oh là là. Quand j'étais enfant, j'ai fait des études. J'ai commencé par médecine, après j'ai fait 4 ans de droit, je ne savais pas quoi faire, je m'apprêtais à passer les concours d'école de commerce. Et puis j'ai eu cet accident, et à la suite de cet accident, je suis rentré dans une école de journalisme. Et là, pour moi, ça a été une vraie révélation.
Mais comment est-ce qu'on peut avoir un accident et d'un coup se dire tiens, là, je vais faire du journalisme?
C'est une suite de rencontres. Je devais partir faire mon service militaire. J'ai été réformé. Il y avait une école qui formait en un an au métier de journalisme, une école européenne à Bruxelles. J'ai passé le concours et je me suis retrouvé dans cette école. Et là, je me suis dit, mais c'est génial. Voilà, ça a été vraiment un changement de cap. J'ai pas pu passer le concours des écoles de commerce à cause de mon accident. J'avais un an à perdre. Je devais faire mon service militaire. Et j'ai été réformé à la suite de mon accident. Voilà, donc ça a été vraiment un agréable concours de circonstances, on va dire.
Donc ton histoire a déjà changé à ce moment-là. Incroyable. Donc tu as cheminé dans le journalisme, ça a plutôt bien fonctionné parce que tu es un journaliste très professionnel, tu traites très très bien de tes sujets et un jour tu travailles sur Fatima et le troisième secret et là ça change complètement ta vision de la vie et là tu as envie de t'intéresser à des choses beaucoup moins terre à terre.
Ça a été vraiment une transformation progressive, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce secret dit de Fatima, qui reste toujours un petit peu caché par le Vatican. Et quand j'ai découvert ce qu'était ce secret, et surtout quand j'ai découvert que cette femme, qui est la Vierge en fait, qui est Notre-Dame, ça fait quasiment 6 siècles qu'elle prophétise des choses incroyables. Toutes ces prophéties se sont réalisées aujourd'hui, sauf une. C'est ce fameux troisième secret que je révèle en partie, dont je révèle les contours dans le film. Et pour tout vous dire, il se trouve que pour répondre très sincèrement à votre question, pourquoi je me suis retrouvé dans une école de journalisme, c'est que cet accident, j'ai découvert quasiment un mois après mon accident de moto, que cet accident, en fait, je l'attribue à cette femme pour une raison hyper personnelle que je me suis souvenu de la veille de mon accident quand je me suis retrouvé par le hasard des rencontres à Lourdes en août de 1988. J'attribue mon accident de moto à cette femme, à Notre-Dame. Il se trouve qu'un mois après mon accident, je me retrouve à Lourdes, alors que je ne suis pas du tout un dévot de Lourdes, loin de là. Mais mes parents étaient très croyants, étaient complètement en me disant « Mais Pierre, tu te rends pas compte, c'est un vrai miracle ce qui t'est arrivé. » C'est vrai que l'accident de moto était absolument incroyable puisque j'ai pas eu un seul os cassé. J'ai fait un bond de 30 mètres, ma moto est coupée en deux et j'ai rien. J'ai juste un trauma crânien, enfin un coma de 15 jours quand même, qui a été assez sévère. J'en suis sorti indemne avec une euphorie frontale et une perte de mémoire immédiate. J'étais incapable de retenir quoi que ce soit. Les personnes qui venaient me voir à l'hôpital, je les saluais, je les reconnaissais, elles partaient 10 secondes après, je les avais oubliées. Et surtout, je me marrais tout le temps, je riais tout le temps. Et un mois plus tard, je me retrouve à Lourdes. Et quand j'ai vu la statue de la Vierge qui est juste devant le sanctuaire, je me suis souvenu de la veille de mon accident de moto. Et la veille de mon accident de moto, il se trouve que je rentre chez moi pour aller me coucher. Comme je vous le dis, j'avais une mère qui est très, très dévote à Notre-Dame et elle avait toujours son petit atelier de prière avec sa statue, sa Bible, un petit peu ses bibelots. Et je tombe sur une petite bouteille transparente fluorescente et là, je m'arrête un petit peu plus qu'étonné de voir cette petite gourde et je la prends par la tête en me disant « mais c'est pas possible, il faut qu'il y ait... » Parce que pour moi, j'étais stupéfait de voir cette petite gourde fluorescente qui illuminait quasiment tout le salon. Et je pars me coucher en prenant cette petite bouteille dans les mains. Je la mets sur mon bureau, je me couche et là, impossible de dormir parce que j'avais le fardeau essent en face de moi. J'avais 22 ans et j'ai regardé cette petite statue et j'ai posé 3 questions à cette dame. Donc, il faut faire attention à vos paroles que vous prononcez parce que ça peut changer, ça peut impacter votre vie.
Ça, c'est vrai.
Je lui ai dit, toi qui es si maligne, dis-moi si tu as besoin de moi, dis-moi si tu as envie de me voir. Donc, ne me posez pas la question de savoir pourquoi j'ai sorti ces 3 petits bouts de phrase, mais quasiment 2 mois et demi plus tard, je me retrouve à Lourdes en me disant « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et quand je regarde cette statue, j'ai ces 3 petits bouts de phrase qui me viennent en tête et là, j'éclate de rire. Et après, 2 mois plus tard, j'intègre une école de journalisme. Voilà.
Oui, le journalisme qui finalement vous mène après à la réalisation de ce documentaire extraordinaire sur les EMI, qui est un sujet parfois tabou, même souvent, dont on ne parle pas assez. Ma question d'abord, c'est est-ce que Lourdes a eu un effet ? Parce que l'après-accident, il y a eu donc des problèmes de mémoire. Ça s'est réglé tout ça ? Ou est-ce que ça a été Lourdes qui a réglé le problème ? Comment ça s'est passé ?
Ça s'est réglé. Ça devient une excuse facile pour moi. Quand j'oublie des rendez-vous, tout ça, en disant j'ai eu un accident de moto. Non, ça s'est réglé.
vous ne me l'avez pas dit tout à l'heure.
Non, ça s'est réglé. C'est vrai que ça a été assez incroyable parce que tout de suite, j'ai pu travailler pour l'un des plus grands quotidiens français, qui est le journal Ouest France, qui est le plus grand quotidien français, c'est sûr. Et je me suis retrouvé bombardé, chroniqueur à Paris. J'étais correspondant à Paris. Je m'occupais de tout ce qui était religion. Donc, c'est quand même très drôle, moi qui n'y connaissais pas grand-chose. Franchement, même si je suis né dans une famille croyante, mais j'avais vraiment un déficit de connaissances dans ce domaine. Donc, je me suis un petit peu intéressé aux religions d'une façon générale, surtout aux sectes, parce que ce qui m'intéressait, c'était le milieu des sectes, parce que là, il y avait de l'enquête. Et grâce à ça, j'ai pu voyager. Donc, j'ai pu couvrir des événements, couvrir quelques conflits, notamment la guerre du Golfe, la guerre d'ex-Yougoslavie, la guerre en Irak, enfin bref, et ça m'a passionné. Et de fur et à mesure, j'ai pu travailler à la fois pour les télévisions, bien sûr pour la radio, qui a mes faveurs, parce que je suis avant tout un homme de radio. Enfin, j'ai beaucoup aimé mes quelques années où j'ai travaillé à la radio.
Et comment est-ce que vous en êtes arrivé aux EMI alors ? Quel est le cheminement pour arriver à un moment donné à croire à ces avant-après au point d'en faire un documentaire, sachant très bien que certaines personnes n'y adhéreront pas du tout ?
Non, le cheminement, il est simple. Le cheminement, c'est qu'une fois que j'ai fait mon enquête sur ce fameux secret du Vatican qui quand même annonce la destruction des 3/4 de la planète, donc on n'y est pas encore, ce qui a été annoncé, on va dire officiellement en 1984, mais ça c'est une longue histoire. Quand je découvre ça, donc forcément, je me dis, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort ? Je me suis dit, tiens, ça peut être vraiment un domaine. Et là, j'ai découvert le monde des EMI que je ne connaissais pas vraiment. Et j'ai été, complètement transporté, quoi. Et à partir du moment où vous soulevez un petit peu le tapis, hein, et vous regardez tout ce qu'il y a en dessous et vous vous rendez compte que il y a pas de la poussière sous le tapis, au contraire, il y a des très belles choses. Et là, j'ai décidé de me dire, mais c'est merveilleux, pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi il n'y a jamais eu d'enquête faite sur ce milieu extraordinaire dont on parle quasiment pas, alors qu'aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont les scientifiques qui en parlent. Aujourd'hui, ce sont des scientifiques qui sont bardés de diplômes, qui sont au devant de la scène pour dire, écoutez, il y a peut-être une conscience extraneuronale. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'une conscience qui existe en dehors du cerveau.
Moi, c'est vrai que c'est souvent le sujet que je traite avec les personnes qui sont en quête de sens. Je leur dis, écoute, va voir les témoignages sur les EMI. Intéresse-toi à tout ça, à tous ces témoignages-là. Il y en a trop pour ne pas, à un moment donné, y croire. Mon parrain a vu cette lumière. Mon parrain s'est senti transporté par cette lumière. Il était bien et il nous a dit qu'il était revenu parce qu'il a pensé à sa fille. Voilà, vous avez rencontré énormément de personnes qui ont été touchées par ces EMI. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué?
Ça, c'est la question aux journalistes.
Je ne suis pas journaliste.
Non, je sais bien, mais je m'amuse parce que j'ai l'impression de m'entendre. J'ai l'impression de m'entendre en écoutant ta question. Alors, pour être très honnête, oui, il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres, mais elles marquent toutes. On a dans le film, il y a une séquence qui est très forte où on est avec toutes ces personnes. Moi, je voyais quelques larmes sur les joues des preneurs de son, tellement les témoignages étaient forts. Et c'est vrai que ces personnes-là ont un impact énorme. Ce sont des vrais témoins vivants pour nous redonner d'un peps inouï. Ce sont des agents, non pas de foi, mais de joie. Ce sont des gens qui peuvent atténuer complètement, voire faire même disparaître la peur de la mort. Il faut entendre ces témoignages des EMI, ces personnes qui reviennent d'un ailleurs qui a parfois été délicat, mais surtout d'un monde qui est incroyable. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et on ne parle pas aussi du traumatisme que représente ce retour sur Terre. Parce que quand ces personnes reviennent sur Terre, que personne ne les croit, ben, elles endurent un traumatisme, un choc post-EMI qu'il faut entendre également. Quels sont les témoignages qui m'ont le plus étonné? Je pense qu'effectivement, le témoignage d'Anita Morgiani est un témoignage inouï, parce que non seulement elle a vécu une EMI, mais d'autant plus c'est une EMI qui l'a guéri complètement de son cancer en phase terminale. C'est-à-dire quand elle est partie là-haut, il faut savoir que c'était juste un cadavre et que deux semaines plus tard, voire même 3-4 jours plus tard, elle recommençait à manger, alors qu'avant elle ne pouvait rien avaler, elle était intubée, enfin c'était un cadavre quoi.
Alors cette histoire, j'en ai parlé à mon frère qui est médecin et il m'a dit oui, mais des histoires comme ça, moi j'ai besoin de preuves médicales et j'ai besoin d'un dossier qui me prouve que c'est vrai.
Ce dossier médical, il existe, il est là, c'est à lui de chercher. Le dossier médical d'Anita Morgiani, ce qu'elle dit dans le film très bien, c'est que son médecin, lui, il comprenait pas, il était furieux parce qu'elle aurait dû mourir. Et quand elle est revenue, alors qu'il avait annoncé sa mort en disant écoutez, voilà, elle est morte, de toute façon, on peut pas la récupérer, et quand... le jour même où elle revient, elle dit « Écoutez, j'ai faim, je vais manger, vous pouvez me retirer toutes mes perfusions ?» Il dit « Mais non, pas du tout, vous êtes malade. » Quand il constate que son cancer progressivement disparaît, elle avait des métastases partout. Elle était complètement... elle avait un cancer généralisé. Et que son médecin, stupéfait, parce qu'effectivement, son cancer disparaît, et en 3 jours, toutes ses métastases avaient disparu, mais il était furieux. Au lieu de se réjouir, c'est ça qui est hallucinant, au lieu de se réjouir et de se dire « Je ne comprends pas ce phénomène, je ne le comprends pas », parce qu'il a quand même piqué partout pour comprendre pourquoi son cancer avait disparu avec des piqûres, des intraloques, enfin, comment on appelle ça, où est passé ce cancer. Donc elle s'est soumise à tous ces traitements inhumains parce qu'on avait juste, elle avait juste en face d'elle un médecin, un scientifique, entre guillemets, qui ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi son cancer avait disparu, parce que cette personne devait mourir.
Oui, mais ça, les médecins, ils n'arrivent pas à expliquer ce que la science n'explique pas, et c'est en ça qu'il faut croire au miracle.
La médecine est dans un dogme aujourd'hui, il est là le problème. On est dans un vrai dogmatisme au niveau de la science chez certains médecins. Parce que la science qui dit « mais non, ça c'est pas possible, c'est pas vrai », ben non, la science doit toujours douter. Mais là, elle n'est plus dans le doute, elle est dans l'affirmation. Non, oui. Il n'y a rien après la mort.
Ben oui. C'est une affirmation sur quelque chose qu'on ne sait pas.
Ce n'est pas scientifique. C'est tout sauf scientifique. Donc, dites à votre, je sais pas, votre frère, c'est ça?
Oui, mon frère, oui. Il va écouter.
Qu'il est dans le domaine de la croyance.
Voilà, et on choisit de croire, on choisit de ne pas croire. Et moi, je crois au miracle, concrètement, et c'est ce dont vous êtes en train de parler. C'est pour ça que c'est un sujet délicat pour ceux qui sont très cartésiens. Mais ça...
Ah non, pardon de te couper. Non, je ne pense pas que c'est un sujet délicat pour ceux qui sont cartésiens. Parce qu'aujourd'hui, c'est la science qui donne la preuve de l'existence de l'au-delà, de l'existence du miracle. Vraiment. Quand, par exemple, mon prochain film, il s'appelle Miracle, justement. Là, je fais Hold Up, qui est un accident de parcours. Hold Up, c'était juste parce que j'étais révolté contre l'injustice. Mais mon prochain film s'appelle Miracle, et justement, il va montrer que grâce à la science, et la science aujourd'hui, avec tous ces instruments du 21e siècle, qui donnent la preuve de l'existence du miracle, c'est-à-dire de quelque chose qui reste complètement inexplicable, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire.
Ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, sur les EMI, cette histoire est extraordinaire. extraordinaire. Vous disiez que c'est assez difficile de recueillir des témoignages négatifs, alors que pourtant l'issue est plutôt positive. Est-ce que vous en avez quand même une à nous raconter ?
Bah oui.
J'adore.
C'est celle qui est dans le film. Voilà, c'est une personne qui est lui. Alors lui, c'est un cartésien, mais il était pour lui, il y avait même pas, il fallait même pas se poser la question. Il y a rien d'après. On était juste un corps biologique qui disparaît. Donc lui, il s'est retrouvé, c'est un Américain qui est arrivé à Paris, qui s'est retrouvé, qui a été déclaré mort à l'hôpital. Je crois que c'était à l'hôpital Bichat et service d'urgence. Et en fait, il raconte comment il était persuadé de rester alors qu'il était déjà plus là, hein, parce qu'il disait mais je comprends pas, je vois quelqu'un dans un lit, et là, moi je me sentais très très bien, je voyais cette personne dans le lit, et puis cette personne me ressemblait, mais ça pouvait pas être moi, puisque moi j'étais bien, je me sentais très très bien, et après cette personne s'est sentie complètement aspirée, et puis dans un tunnel, et forcément là à un moment donné le tunnel il s'est rempli de personnes qui étaient très très désagréables, qui parlaient dans sa propre langue, donc il s'est dit tiens c'est pas possible, je suis plus à l'hôpital là, et là effectivement il a été complètement roué de coups, il s'est retrouvé dans une souffrance énorme qu'il avait du mal à décrire tellement c'était effroyable. Il n'avait qu'une seule envie, il s'est dit, mais il entendait quelqu'un qui lui demandait de prier Dieu. Donc il lui dit, mais je ne peux pas prier Dieu, j'y crois pas. Donc dans son EMI, il entend deux à trois reprises quelqu'un en lui disant, mais prie Dieu. Il dit, mais je ne peux pas prier Dieu, je n'y crois pas. Donc, vous voyez, cet athéisme forcené, il était dans une pire qu'une détresse, puis il raconte, là je ne peux pas les raconter tellement, enfin c'était d'une violence inouïe hein, ce qu'il a vécu, et à un moment donné, devant cette violence énorme, il s'est souvenu d'un prénom, de Jésus, et il a appelé Jésus, et là il a fait cette rencontre qui continue de changer sa vie aujourd'hui, quoi.
Incroyable. Où peut-on découvrir ce documentaire, parce qu'on a très envie de le regarder, mais là il y a eu le Covid, je sais que ça devait sortir un peu en Belgique, où est-ce que ça en est aujourd'hui?
Non, je crois qu'il est toujours au Saint-André-des-Arts à Paris, pour ceux qui sont à Paris. Moi je sais que je vais présenter le film là à Bordeaux le 5 novembre dans un grand cinéma. On va sortir le DVD rapidement, on va sortir également un lien VOD. Le film, il continue d'exister. C'est vrai qu'en salle, c'est quand même important parce que la salle, c'est le seul endroit où vous pouvez regarder un film une heure et demie, seul, pour regarder un film. Ça reste d'abord un lieu d'information et surtout un lieu où vous pouvez, pendant une heure et demie, faire une seule chose en même temps. Regarder, être touché et essayer de comprendre quelque chose. J'ai décidé de consacrer mes enquêtes au cinéma puisque c'est pour moi le dernier espace de liberté qui nous reste. Je dis bien le dernier. Et encore, regardez, les cinémas sont complètement aujourd'hui à terre, ils sont par terre, ils sont à genoux à cause de ce fameux Covid. Et il y a vraiment un lien entre le Thanatos, mon film sur les EMI, et le film que je vais sortir tout à l'heure, enfin, bientôt, la semaine prochaine, j'espère, sur cette crise sanitaire, qui n'est pas une crise sanitaire, c'est une crise sociale, une crise politique, une crise métaphysique. J'ai fait ce film justement suite à Thanatos, parce que ce film Thanatos, au départ, je voulais vraiment le faire pour enrayer la peur ancestrale qui est la peur de la mort. Et il faut savoir que la peur est à l'origine de toutes les guerres.
Oui.
Ce sont les peurs qui ont déclenché les guerres, les conflits, les génocides.
Les peurs et les fausses croyances.
On est en plein dedans.
Alors, vous avez donc créé Thanatos, Thana TV, qui cumule plus de 4 500 000 vues. Donc, vous avez vraiment un large public qui aime ce genre de sujet. Et on l'a dit tout à l'heure, vous avez donc récolté des fonds là maintenant pour pouvoir justement parler de ce sujet. Le Covid-19, ce sujet d'actualité. C'est une vraie prise de parti quand même que vous faites là. Vous étiez sur un documentaire à la base de 45 minutes. Là, ça va faire 2 heures. Vous disiez que ça va sortir la semaine prochaine. Vous n'avez pas peur de traiter de ce genre de sujet polémique ?
Non, moi je ne suis pas du tout dans la polémique, même si l'affiche est un peu provocante. Moi, mon seul guide depuis 35 ans, c'est d'être un témoin de la vérité, quoi. Juste d'être de dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Là, on est dans des mensonges qui sont colossaux, parce qu'ils sont mondiaux. Et il est là le problème. C'est que là, on est dans une crise, on est dans une tyrannie, on est dans une tyrannie qui cache son nom, quoi. Je suis sidéré de voir aujourd'hui qu'en moins de 8 mois, on a tout cloisonné. Aujourd'hui, on ne se parle plus, on ne s'embrasse plus, on sort dehors masqué, il y a des tensions dans les familles. J'ai la chance, je me déplace en vélo tous les jours, mais je suis effaré de voir tous ces masques. Quand vous regardez un petit peu les chiffres, quand vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, quand vous reprenez les différents acteurs acteurs de cette tragédie. Il suffit de refaire le fil de l'histoire, de reconstruire l'histoire, d'essayer de comprendre, de poser les bonnes questions, d'aller les chercher. Parce qu'aujourd'hui, on vit une époque qui est fantastique. C'est la seule époque aujourd'hui où on peut avoir accès à tout. On peut savoir. Si vous avez envie de savoir ce qui s'est réellement passé, vous le pouvez. Il faut juste du temps et savoir trier les informations, savoir les recouper, savoir déceler les vraies et les fausses informations. Regardez, aujourd'hui, tous les grands médias courent après les vraies, les fausses informations qu'on entend ici ou là. Ils vérifient des informations parce qu'eux-mêmes disent des choses qui ne sont pas forcément vraies.
Voilà. Justement, là, c'est un film qui se veut international. Comment faire un film inattaquable à l'international avec un sujet comme celui-là?
Le film sera attaqué, ça, j'ai aucun doute, mais en tout cas, de le faire d'une façon le plus juste possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les personnes disent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'ils rapportent, c'est vrai? Est-ce que leur qualité de professeur, de prix Nobel ou de scientifique permettent de dire telle ou telle chose? On a vu pendant cette crise bon nombre de médecins dire des choses, annoncer des choses, prophétiser des choses qui ne se sont jamais avérées et qui étaient complètement fausses. Ça, c'est facile à démontrer. Moi, maintenant, dans mon film, je vais faire attention à ce que tout ce que les personnes disent soit vraiment des choses qui sont avérées. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, ça y est, le gouvernement vient d'interdire à nouveau l'hydroxychloroquine, mais ça devrait faire bondir tout le monde, quoi. Ça devrait faire bondir tout le monde, mais non. On est dans une apathie, on est dans une soumission, moi, qui me dépasse.
Vous voulez en tout cas nous éveiller sur une autre manière de voir les choses?
Ah ben bien sûr, on est sur une planète qui est magnifique. On a tout, sincèrement. Moi, plus j'avance, plus je m'émerveille de la vie. Plus je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'elle est belle, surtout quand on réfléchit à ce qui se passe après aussi, ce qui est un peu le sujet de cette interview. Vous avez dit, nous sommes un être de lumière qui fait l'expérience de l'humain. J'adore cette citation. Si l'on voit la vie comme cela, vous la vivez comment depuis que vous la voyez de cette manière?
Je suis constamment dans l'émerveillement. Et mon émerveillement aujourd'hui, il est contrarié de voir des gens tristes, masqués, ne plus s'embrasser, ne plus se serrer dans les bras. Et donc ça me fait beaucoup de peine. Donc c'est l'émerveillement que j'ai toujours eu et que je continue d'avoir devant cette planète qui est sublime est contrasté par la peine que j'ai de voir des grands-mères avancer péniblement à l'extérieur, aller se promener dans une forêt avec un masque. Quand vous voyez aujourd'hui, je vais souvent me promener en forêt, juste pour me ressourcer, quand vous êtes en pleine forêt et que vous voyez des gens se promener la main dans la main avec deux masques, vous ne comprenez pas, quoi. Pour en arriver là, il y a forcément eu un lavage de cerveau quelque part. Ce n'est pas possible autrement. Ou alors, c'est cette peur, encore une fois, et c'est pour ça que c'est bien d'atténuer cette peur de la mort, parce que le virus de la peur s'est transmis, mais beaucoup plus rapidement que le petit virus du Covid, quoi. Parce que la peur, là, elle est planétaire. Quand vous voyez le monde entier masqué aujourd'hui, vous dites, mais pourquoi? Ce film-là, il veut juste poser des questions. Et parce que je pense que c'est qu'en posant des questions qu'on permet aux gens de peut-être de se poser des questions.
La question d'Hold-up, on découvrira les réponses bientôt dans votre film documentaire. Thanatos, j'espère qu'on retrouvera bientôt ce film documentaire sur les plateformes.
Oui, bien sûr, mais ça arrive là. Fin octobre, c'est prêt. Fin octobre, il sera en VOD. Et en novembre, on sort le DVD.
Donc je vous invite à le regarder parce que c'est très intéressant. Il y a trop de gens qui témoignent pour ne pas croire. Donc je fais appel aux croyants, aux non-croyants. C'est vraiment des expériences de vie incroyables. Et merci d'ailleurs d'avoir fait cette enquête extraordinaire.
Et j'ajouterais juste une chose. Moi, ma priorité dans ce film, là, c'était vraiment, j'ai choisi mes personnages dans la mesure où avant leur Emmy, ils ne croyaient en rien. Parfait. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que tous les personnages qui sont dans ce film n'avaient quasiment aucune pratique religieuse avant. Aucune. C'est Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont une pratique aujourd'hui. Hein.
Oui, mais ça a changé
ils n'avaient
leur
pas de pratique. Ils n'avaient pas de pratique religieuse. C'est-à-dire que je voulais vraiment faire un film en dehors des religions pour montrer que, voilà, rester sur le côté scientifique avec des médecins qui essayent de comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, quand on sait qu'il y a plus d'une centaine de personnes dans le monde, de scientifiques qui travaillent sur la conscience, ça devrait faire réfléchir.
Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de quête de sens. Et je vous invite vraiment à découvrir Thanatos très bientôt, à regarder pourquoi pas Hold-up, si vous aimez en savoir plus sur l'actualité vue sous un autre angle encore.
Il y aura du rire dans Hold-up.
Ah,
il y aura du rire.
Parce qu'on a besoin de ça, Pierre, vraiment. On a besoin aussi de sourire, on a besoin de changer les idées. Moi, des fois, je dis on a besoin de ne pas regarder les infos aussi. Pierre, si vous aviez une citation, là, votre mantra du moment, ça serait quoi?
L'amour n'existe pas s'il ne se partage pas.
Vrai, on dit qu'il ne faut pas attendre un retour en amour, mais on en a quand même besoin. Merci Pierre, succès à vous et puis plein de bonnes choses pour la suite et continuez à nous émerveiller et continuez à soulever des questions et à nous amener une autre vérité, votre vérité.
Oui, j'ai pas ma vérité, j'essaye justement de travailler pour être le plus juste possible dans une vérité qui, elle, est immuable. En tout cas, un immense merci Nancy et puis on est tous des petits cailloux comme ça. Hein. Ici ou là, on a tous notre chemin de vie. Et c'est ce chemin-là auquel je crois le plus profondément.
Continuons à nous inspirer les uns les autres et positivement surtout. Merci à Radio Saint-Dié et LikeUps pour le partenariat. Faites bien attention à vous et puis surtout continuez à sourire, même au parc avec le masque. À la semaine prochaine.